Salut, c'est Nemo et vous êtes bien sur Music Sans Better With Us, le podcast qui vous raconte les petites et les grandes histoires de la musique. Après notre série consacrée au groupe N.E.R.D., aux Neptunes, au label Star Trek et à Pharrell Williams, voici un épisode un peu spécial où je vais vous parler des légendes du punk noise rock alternatif Sonic Youth. Et je vais vous en parler en passant par la fusion rap et rock, le cinéma de genre des années 90, la montée du grunge et même un clash avec LL Cool J. Music Sans Better With Us, c'est un podcast, mais c'est surtout une boutique en ligne où vous retrouvez tous les vêtements, accessoires, figurines et pièces de collection associées au sujet dont je vous parle. Concernant Sonic Youth, il s'agit d'une superbe série de vestes, t-shirts, chemises et hoodies de la marque californienne Pleasures en collaboration avec le groupe. Il y a des superbes pièces, je vous recommande d'aller voir ça. Et à côté de cette sélection, nous vous proposons les albums en vinyle neuf de quasiment toute la discographie de Sonic Youth, notamment un qui va beaucoup nous intéresser dans cet épisode, Goo, sorti en 1990. Je vais donc vous expliquer comment j'ai vraiment découvert Sonic Youth, quels ont été les points d'accroche pour moi, le cheminement logique qui m'a intéressé à la deuxième partie de carrière du groupe de Kim Gordon, Thurston's Moore et Lee Ronaldo, et comme par hasard, il y a un peu de rat dedans. Allez, Sonic Youth dans Music Sans Better With Us, c'est parti. Passé mes années collège puis lycée totalement passionné par la musique, mais avec une schizophrénie très importante. À l'époque, il existait des clans musicaux où chaque humain était défini par ce qu'il écoutait, et moi, j'étais entre deux eaux. J'écoutais énormément de métal, de hardcore punk, mais j'étais aussi grand passionné de rap. Et franchement, à l'époque, c'était deux milieux qui ne se parlaient pas vraiment. En tout cas, dans les groupes de ceux qui écoutaient ces musiques. Si t'écoutais du rap, tu ne pouvais pas vraiment kiffer les clips de Metallica, et si t'étais un grand fan de métal, tu ne pouvais pas écouter MC Solar tranquille dans le bus. C'est assez fou de voir comment maintenant tout est extrêmement mélangé dans tous les sens, alors que dans les années 80 et 90, les mouvements musicaux étaient très cloisonnés. Mais au fond, je pense que c'était beaucoup de posture, et que pas mal de kids comme moi ont évolué de la même façon, avec Slayer d'un côté et Wu-Tang de l'autre. Mais on va y revenir. Je vous en parlais dans l'épisode sur la culture skate et N.E.R.D., j'ai longtemps cherché le groupe qui arriverait à relier ces deux parties de moi, l'énergie du punk hardcore et la puissance du rap. Quelques groupes faisaient le lien, je pense notamment à la vision de Rick Rubin pour les Beastie Boys ou Run DMC, mais aussi à Public Enemy, toujours sur l'impulsion de Rick, qui sample Slayer sur She Watch Channel Zero. The woman makes the men all pause, and if you got a woman, she might make you forget yours. There's a five-letter word that describes her character, but her brain being washed by an actor. Puis en 1990, toujours Public Enemy, qui remixe son Bring the Noise avec le groupe Anthrax, un autre fleuron du thrash metal, avec Metallica, Slayer et Megadeth. Bien sûr, je suis archi fan. À l'époque, Public Enemy est signé sur Def Jam, le label de Rick Rubin, et Rick Rubin est producteur des albums de Slayer, donc le lien rap, hardcore et thrash metal se maintient. Il y a aussi des groupes et des artistes qui avaient une image très sombre, avec des crânes ou des cimetières qui se calent bien avec le pattern heavy metal. Le groupe qui relie le plus les deux scènes à cette époque, c'est sûrement Cypress Hill. Pendant des années, Cypress Hill était LE groupe qui pouvait plaire aux gars du rock, à côté de House of Pain, de Public Enemy et des Beastie Boys, notamment très demandés en festival, quitte parfois à devenir une caricature du groupe de rap pour les rockers. Totalement à tort d'ailleurs, je trouve, car c'est juste que l'origine plus latine du groupe lui amène des liens plus faciles avec le rock. Le débit, l'univers, les rythmiques, il y avait beaucoup de points communs avec le métal, même dans les premiers albums de Cypress Hill. Bien sûr, j'étais un grand fan, comme tout le monde, et on sentait entre 1992 et 1994 que le groupe commençait à avoir de plus en plus d'influence sur le monde du rap, notamment sur un Ice Cube par exemple, mais aussi sur celui du rock alternatif et des musiques extrêmes. Et moi, c'est vraiment l'époque où ma schizophrénie musicale est au max, car j'écoute autant Jazz Matas de Gourou, avec Le Bien et le Mal de Solar, que Chaos AD de Sepultura, ouais, j'étais énormément fan. J'écoute autant Black Sunday de Cypress Hill que Angel Dust de Faith No More, un des groupes préférés. J'écoutais autant Doggy Style de Snoop Dogg, une vraie déflagration, que l'album éponyme de Rage Against the Machine, celui qui a tout changé. Et c'est à cette époque, grâce à Cypress Hill, Slayer, House of Pain et Run DMC, que je découvre la bande-son qui va régler cette fusion rap-rock, donc ma schizophrénie, et c'est la BO du film Judgment Night, sorti en 1993. On y retrouve absolument tous ces artistes que je viens de citer et d'autres, comme Cypress Hill, Slayer, House of Pain, Helmet, Biohazard, Onyx, Pearl Jam, Run DMC, Faith No More, Ice-T. On dirait qu'ils ont pris toutes les cassettes que j'avais dans ma chambre d'ado pour en faire un bourbier juste pour moi. Mais pour parler de cette BO devenue mythique, parlons d'abord du film que tout le monde a totalement oublié.
Nobody is taking dates, it's a bunch of guys going to a boxing match, that's it. Why are you looking at me like that?
Because I know your friends. They have the hormones of high school kids.
I'll be home early, okay?
Promise?
What do you say, fight fans?
A night out on the town. Yeah. A heavy traffic jam.
Tell you something, I'm not going to miss this fight.
And one wrong turn.
La nuit du jugement en français est un thriller signé Stephen Hopkins, qui est le réal de Freddy 5, Predator 2 ou Blown Away, très qualifié en pure action movie, mais qui tire souvent vers le nanar. Le pitch du film est très simple. Quatre potes qui ne se sont pas vus depuis longtemps essayent de se rendre à un combat de boxe dans un petit bus de luxe. Mais en voulant prendre un raccourci, ils se perdent dans le hood et sont poursuivis par une bande de dealers jusqu'au bout de la nuit car ils ont été témoins d'un meurtre. Tout se passe dans le même quartier malfamé de Chicago avec une unité de temps, une seule nuit. Judgment Night. Bon, c'est pas vraiment un classique ce Judgment Night, mais je l'ai revu pour l'occasion de ce podcast et il a vraiment tous les ingrédients d'un bon thriller d'action des années 90, avec des dialogues crus, des scènes à suspense et gros plans, et de la violence bien gratuite et bien inutile. En fait, tout le charme du film passe par son casting, que des seconds couteaux de luxe. Les quatre potes sont Emilio Estevez, Cuba Gooding Jr., Stephen Dorff et Jeremy Piven des années avant de devenir le Harry Gold d'entourage. Et les interactions entre ces quatre-là, les expressions folles du visage d'Emilio, les histoires de famille, les grands gestes de Cuba quelques années avant Jerry Maguire, les changements d'attitude face au danger, à la peur, Stephen Dorff en BG chien fou, la lâcheté de Jeremy Piven, les liens qui se font et défont au fur et à mesure de la nuit, c'est vraiment le grand point fort du film. Puis il y a en face les méchants très méchants, où on retrouve un Dennis Leary, complètement déjanté comme d'habitude dans les années 90, et à ses côtés, eh bien on retrouve Everlast, le frontman du groupe House of Pain, dans son tout premier rôle au cinéma. House of Pain, comme par hasard. Parce qu'en fait, tout vient de là. Everlast dira en interview que ce tournage était une purge. Il trouvait le film nul et il avait grave envie de s'en débarrasser. Il trouvait que rien n'était crédible. En plus, il se détestait avec le réal, bref, ça allait pas du tout. Everlast avait sûrement un peu raison, car à sa sortie, le film flop totalement et tout le monde le trouve un peu ridicule. Perso, j'ai trouvé beaucoup de plaisir et je pense qu'une relecture actuelle y amène un autre aspect. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Car pendant le tournage, les producteurs demandent à Everlast s'il a une idée pour la musique du film. Et là, Everlast repense au remix que leur a fait Butch Vig de leur morceau Shamrocks et Shenigans pour House of Pain. Ça sonne comme ça. Like Stephen King writes horror. If I was a Jew, then I'd light a menorah. I got rhymes for ya, excuse me, senora. Are you a horror? Are you a lady? Is it Eric O'Boyer or Marsha Brady? Butch Vig, c'est le mec qui a produit l'album le plus important du début des années 90, Nevermind de Nirvana, vraiment le raz-de-marée. Et sur ce remix, il arrive à allier la saturation du grunge avec le hip-hop frontal de House of Pain. Everlast est enchanté par ce remix, il cartonne en festival avec, et l'idée émerge dans sa tête que ce serait parfait comme musique pour ce film de course-poursuite urgente dans la nuit. Il parle alors de cette idée un peu folle au producteur E.P. Walters, un jeune mec de 22 ans qui est alors manager des Soul Assassins et donc de Cypress Hill et House of Pain. Happy, j'adore ce prénom, est en train de monter son label Immortal Records et son délire c'est déjà de mélanger trois contre-cultures de la musique du moment, le rock alternatif, le thrash metal ou hardcore et le rap. Les premières signatures de son label Immortal sont totalement dans ce sens, avec Funk Dubiast, le troisième larron des Soul Assassins, aux côtés de Cypress Hill et House of Pain, puis Volume 10, des Freestyle Fellowship, du rap très indépendant, très technique, presque free jazz, et Korn. Oui, Korn, le vrai groupe phare du néo-metal. Donc voilà, Happy il a du flair et il pèse pas mal dans son délire déjà. Et pour cette BO de Judgment Night, donc, il a l'idée de croiser ces trois cultures dans un seul disque composé uniquement de collaborations rap-rock. En gros, Happy veut faire le combo Run DMC Aerosmith Walk This Way ou Public Enemy Anthrax Bring the Noise, mais sur un disque entier. Il y met donc tout de suite ses groupes dans le projet, Cypress Hill, House of Pain, DJ Muggs, leur producteur, et il va à la pêche aux groupes plus rock qui seraient intéressés de faire des morceaux collaboratifs. Et un des tout premiers groupes à être intéressé par ce projet, c'est Sonic Youth. Ils répondent très vite présents et sont parmi les premiers à enregistrer avec Happy et DJ Muggs. Et j'avoue que leur collaboration avec Cypress Hill sur cette compilation BO, I Love You Mary Jane, est sûrement un des premiers que j'ai vraiment écouté de Sonic Youth. Ça donnait ça. On y retrouve les guitares alternatives quasi noise de Sonic Youth, la voix soufflée de la chanteuse Kim Gordon et le flow nasillard de Beryl, le rappeur de Cypress Hill, pour une ode au cannabis, grande spécialité de Cypress Hill notamment. J'y retrouve aussi les sonorités exactes du moment, celles de Nirvana et du grunge omniprésent. Et ça, c'est encore un peu de la faute de Butch Vig, qui, après Nevermind, s'est attelé au son de Sonic Youth sur leur album classique Dirty en 1992, avec cette petite poupée en laine sur la pochette, vous connaissez sûrement. Bref, cette connexion Sonic Youth-Cypress Hill est une vraie réussite, et c'est d'ailleurs encore le morceau le plus streamé de la BO à l'heure où je vous parle. Pourtant, la première session d'enregistrement de ce morceau ne s'est pas du tout bien passée. DJ Muggs est un peu perdu avec tous ses instruments, il n'a jamais enregistré un groupe de sa vie. De leur côté, Kim Gordon et Thurston Moore, les deux leaders de Sonic Youth, sont frustrés parce qu'ils ont l'impression qu'on leur a demandé de mettre un peu de rock dans un morceau de rap. Foutre quelques guitares par-ci par-là, bref, ça marche pas. Après la première session, Muggs appelle Happy et lui dit « C'est dead mec, ça marche pas en fait ». Mais Happy le pousse à retester quelque chose d'autre, il croit à fond à cette idée. C'est un des premiers morceaux et il veut que ça soit un marqueur fort pour pousser d'autres groupes à dire oui. Après plusieurs heures à apprivoiser les usages musicaux des deux côtés et à fumer beaucoup de marijuana, les deux groupes commencent à se comprendre, autant dans l'usage des sampleurs que dans celui du traitement des guitares. Le refrain posé par Kim Gordon fait la différence et tout le monde est alors content du résultat. La première brique de la compilation Judgment Night est une ogive. Et ce morceau m'a amené à m'intéresser au reste de la discographie de Sonic Youth. Dirty donc, où je retrouve le son grunge de Butch Vig, mais aussi Goo, où je découvre une première incursion dans le monde du rap qui va sûrement faire le lien avec la participation de Sonic Youth à la BO Judgment Night. En effet, le morceau le plus connu de l'album Goo se nomme Cool Sing, une incursion grunge plus simple et accessible que la musique du groupe auparavant. Et pour cause, quand ils ont fait Goo, Sonic Youth n'avait qu'une seule rêve musicale, l'album Bleach de Nirvana, sorti quelques mois plus tôt. Ils voulaient que ça sonne grunge avant même que le grunge existe en tant que style. C'est incroyable d'ailleurs de voir l'impact de Nirvana sur le monde de la musique dès que leur premier album est sorti, pourtant réalisé avec $600. L'authenticité a vraiment tout changé. Donc pour résumer, Cool Sing est très grunge, mais aux surprises, il comporte aussi l'apparition de Chuck D, le frontman de Public Enemy. Tiens, tiens, il y a encore du rap dedans en fait. Et l'histoire de ce morceau est encore pleine de rebondissements. C'est parti, je vous raconte ça. En fait, Kim Gordon, la chanteuse de Sonic Youth, a toujours été méga fan de rap. notamment des productions de Rush et Def Jam, à savoir Run DMC, encore eux, et LL Cool J, produit par Rick Rubin, oui, encore lui. Kim dira souvent en interview que l'album Radio de LL Cool J, sorti en 1985, a été une vraie déflagration pour elle, sa première porte vers le monde du rap. En 1988, elle monte carrément avec Sonic Youth, un side project alternatif chelou, nommé Chicktron Youth, sorte d'hommage à Madonna, aux boîtes à rythme et au mélange disco, électro, hip-hop. Ce Whitey album, bizarre, part dans tous les sens, mais il sample déjà des beats de Radio de LL Cool J. Un impact donc incroyable et encore une marque d'affection de Kim et sa bande pour le célèbre rappeur. Mais tout va changer en 1989 quand le magazine Spin propose à Kim Gordon d'interviewer LL Cool J. Kim accepte et est un peu stressé de rencontrer cette star du moment qui vient de sortir son troisième album, Walking Like Panther, et ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Et ce que Kim pensait comme un échange se transforme en discours de star macho nul. Kim est déçu du peu d'intérêt de LL pour le mouvement punk et le rock en général. En gros, Kim voulait lui parler des Stooges et LL répondait avec une seule ref, Bon Jovi. Bon, ça marche pas, ils n'arrivent pas à se parler. Et Kool Sing est en fait une réponse totale à cette interview. Même si LL Cool J n'est pas cité explicitement, on retrouve des clins d'œil à ses morceaux comme « I Can't Live Without My Radio », ça parle de la pochette de « Walking Like a Panther » et ça reprend le gimmick de « Going Back to Cali ». Et en fait, Kool Sing, on comprend que c'est LL Cool J. Le clip est encore plus évident, vu qu'il reprend les codes noir et blanc de Going Back to Cali, ainsi que la mise en scène avec les go-go dancers. Et Chuck D, qui était dans le même studio que Sonic Youth pour l'enregistrement, accepte d'intervenir dans un dialogue où il twiste le nom de l'album de Public Enemy, Fear of a Black Planet, en Fear of a Female Planet. On est sûrement sur le morceau le plus incroyable d'amour et haine envers le rap, bourré de références, embrassant ses idéaux révolutionnaires et progressistes, mais rejetant son attitude misogyne et mercantile. Kool Sing est sûrement le plus beau morceau grunge sur le rap par un groupe pas grunge et pas rap. Une fusion que je n'avais pas vu venir, et Sonic Youth m'a vraiment eu là-dessus. Pour revenir sur la BO de Judgment Night, après tout ça, c'est fou, en revoyant le film à quel point la musique a été peu utilisée. C'est juste des bribes de son qu'on entend dans les voitures, dans les appartements, comme pour mettre une ambiance d'urgence et de danger dans le film. Le seul morceau bien placé est dans le générique du début, où De La Soul entame un fall-in parfait sur les petites guitares de Teenage Fan Club, reprenant l'incroyable tune Free Fall-in de Tom Petty, dont je suis un fan absolu. Mais c'est une autre histoire, pour sûrement un autre épisode du podcast.
Hey yo kids, what's up? Remember when I used to be dope?
Yeah.
I own a pocket full of fame.
But look what you're doing now.
I know. Well, I know. I lost touch with reality. Now my personality is an unwanted commodity.
Believe
Can't
it.
Believe I used to be Mr. Steve Austin on the mic. 6 million ways.
En attendant, la BO de Judgment Night a été un énorme coup marketing d'alliance entre les trois contre-cultures de la musique du début des années 90, le rock alternatif, le thrash, metal, hardcore et le rap. Et comme beaucoup de BO à cette époque, elle a dépassé largement l'impact du film. Son incroyable mélange ouvre la porte pour l'omniprésence de Rage Against the Machine au milieu des années 90. Rage qui était d'ailleurs totalement prévu sur cette BO pour une collab avec le groupe Tool, mais aucun des deux groupes n'était content du morceau. On a quand même pu l'écouter des années après, et voici ce que ça donnait. Franchement, moi j'aime bien, je sais pas pourquoi ils ont pas voulu le sortir, c'était bah, bref. Apparemment, Tool était plus chiant que Rage Against the Machine. Bon. Cette compile BO a aussi propulsé l'émergence de la fusion avec des groupes comme Incubus ou du neo metal avec des groupes comme Korn par exemple, ces deux groupes étant lancés par le label Immortal Records d'Happy Walters. Tout est donc logique, tout est une boucle, c'est incroyable. A noter que Happy Walters et ses amis essaieront de faire le même coup avec la BO du film Spawn en 1997, mais cette fois-ci en alliant le rap avec la musique électronique. Le film est encore moins bien que Judgment Night, je pense, même s'il y a des bons moments et je pense qu'il faudrait que je le revoie. Et la BO, par contre, va faire un flop et cette alliance de musique électronique et de rock, un peu électro-métal, va pas vraiment fonctionner. Ça va être moins important au niveau culturel que la BO de Judgment Night. Et voilà, cette histoire de mélange complet, vous la retrouvez sur notre boutique Music Sound Better With Us, avec la collection Pleasure Sonic Youth, qui reprend des visuels de nombreux moments cultes du groupe, et vous pouvez retrouver aussi les albums Dirty et Goo, dont j'ai parlé, en vinyle neuf, dans des superbes éditions, ainsi que la fameuse BO de Judgment Night, et une VHS du film. On a aussi quelques cassettes et objets rattachés à LL Cool J. Vraiment, tout est un cycle. Car c'est aussi ça l'histoire de Music Sound Better With Us. La passion à travers les multiples références, les objets, les disques, les souvenirs. A très bientôt pour un nouvel épisode.